Saison 5 en vidéo, épisode 4 du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui à un événement ecclésiastique qui a fait un peu de bruit médiatique, la prière de bénédiction des couples homosexuels proposée par les évêques de Belgique néerlandophone. Je vais y arriver. Beaucoup de bruit pour rien ou un vrai problème? C'est la question que je poserai dans un instant à mes invités, et je m'empresse d'ailleurs de les présenter. Je suis très heureux de retrouver dans ce Club des Hommes en Noir le père Jean-François Thomas.
La joie est partagée.
C'est un honneur, de la Compagnie de Jésus. L'abbé Cellier, qu'on ne présente plus, lui.
Voilà. Bonjour monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs.
De la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, l'abbé Claude Barthes.
Bonjour à tous.
Prêtre diocésain. Merci beaucoup de...
Oui. J'ai aussi une revue, vous pourriez en parler.
Vous avez aussi une revue, oui.
Qui s'appelle Resnové.
Par Internet.
Voilà.
Resnové, voilà.
Que j'invite les auditeurs à les consulter.
Oui, effectivement, les derniers articles étaient très intéressants.
Les derniers.
Et puis, nous avons la grande joie d'accueillir pour la première fois dans ce Club des Hommes en Noir Anne Lepape, journaliste et spécialiste des questions religieuses, qui a dirigé la page religieuse pendant plusieurs années du quotidien présent. Anne Lepape, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci beaucoup de votre présence qui nous réjouit tout à fait et qui va permettre d'amplifier un petit peu les points de vue et les analyses. Alors, prière des couples homosexuels présentée par ces évêques de Belgique, vrai problème ou beaucoup de bruit pour rien? Monsieur l'abbé.
D'abord, je voudrais dire, pour bien situer les choses, qu'il existe des situations morales et des situations personnelles de gens qui ont des tendances homosexuelles, comme des gens qui sont divorcés, remariés, etc., qui sont parfois très difficiles et qu'il faut accompagner spirituellement et qui demandent beaucoup d'investissement spirituel pour ces personnes qui sont en grave difficulté morale. Mais néanmoins, on ne peut pas changer la révélation, on ne peut pas changer l'Église, on ne peut pas changer l'Évangile parce que des gens sont dans des situations difficiles.
Mais il faut les accompagner quand même.
Il faut les accompagner spirituellement, bien sûr. Je dirais tout homme est pécheur et le prêtre est là pour accompagner les hommes pécheurs et pour les aider à devenir meilleurs à travers la prédication, à travers les sacrements, à travers la présence, etc. Toutes sortes de choses. Mais il s'agit de les accompagner vers le meilleur et non pas de bénir le péché. On ne peut pas bénir le péché. Ça, c'est impossible de bénir le péché, ça n'a aucun sens. Même si, à l'intérieur d'une situation de péché, il peut y avoir des actes de vertu naturels Là, parce qu'on nous dit, on bénit parce que c'est une union stable. Alors, donc,
bon, et fidèle.
Et fidèle. Voilà.
C'est les deux termes qui ont été,
donc,
qui ont été utilisés.
Je dirais, si un homosexuel, alors que son compagnon, entre guillemets, est gravement malade, lui porte secours et l'aide, on ne va pas dire que c'est une chose mauvaise en soi, si vous voulez. Mais en revanche, la situation de péché, il est impossible de la cautionner et encore plus de la bénir. La bénédiction rend plus sain, meilleur une chose bonne, elle ne peut pas rendre bonne une chose mauvaise.
Monsieur l'abbé ?
Oui, d'autant que, en l'espèce, il s'agit finalement de bénir un mariage, entre guillemets, homosexuel, c'est de ça qu'il s'agit. On est à la remorque de cette néo-institution du mariage républicain, oui, homosexuel en l'espèce. Mais non, c'est tout à fait d'accord, ce que vous dites. L'énormité... ça va sans dire. L'énormité, en l'espèce, c'est précisément que ce soit des évêques qui fassent ça. Donc c'est vraiment une forfaiture inouïe. Enfin,
forfaiture, vous employez le terme.
Oui, je pense qu'on peut se demander, oui, qu'est-ce qu'ils sont, ces évêques?
On va encore avoir quelques petits problèmes.
C'est colossal. Et le deuxième problème, c'est que l'absence de réaction appropriée des autres évêques. Bon, ne serait-ce qu'en Belgique, ce sont les évêques flamands.
Flamands ou flamingants.
Flamingants. Mais il y a des évêques, l'évêque de Liège, l'évêque de Namur, il y a d'autres évêques.
D'Anvers.
Non, d'Anvers, il est flamingeant, non?
Oui, c'est ça.
Oui, non, là je parlais de ceux qui ne sont pas touchés, qui n'ont pas voté.
qui n'étaient pas concernés par ce vote,
qui auraient pu réagir d'abord en direct.
Non, ce sont deux épiscopats différents.
Voilà, donc ils auraient pu réagir très fortement, et d'autres épiscopats, et d'autres évêques. L'évêque est le docteur de la foi, il doit obligatoirement parler. C'est le vrai problème pour l'Église aujourd'hui.
Et puis pas de réaction romaine non plus.
Par ailleurs, bien sûr.
On va en parler peut-être.
Qui est directement contredit dans ce document. Il faut quand même dire que le cardinal Arinze s'est levé contre...
Arinze,
de quel Nigérien peut-être ?
Africain en tout cas.
Africain. Et ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin.
Et qui a réagi
sur cette question-là, oui. Oui, très très fortement.
Père Thomas, votre réaction, vous, devant cet événement, où au début je disais, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien ? Ou est-ce que c'est un vrai problème ?
Alors c'est un vrai problème parce que c'est une chose qui ne se produit pas uniquement, même si là on a affaire à un texte officiel, pas uniquement en Belgique néerlandophone. On retrouve le même type de problème dans des pays et depuis beaucoup plus longtemps comme les États-Unis ou bien les Pays-Bas, l'Allemagne et puis même la France dans certains endroits. En tout cas, ce texte n'arrive pas là par hasard, parce qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs années une commission qui avait été mise en place, dirigée par un certain monsieur William Bombeck, et il est très intéressant de voir ce qu'il dit sur le texte, justement pour le défendre. Il dit notamment que les évêques se sont inspirés du magistère verbal et non verbal de François. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'est le magistère
non-verbal. C'est une nouvelle catégorie.
Voilà, c'est une nouvelle catégorie. Donc il y a cet aspect. Et puis, en ce qui concerne ce qu'a dit M. l'abbé Cellier, oui, en effet, on ne peut pas bénir le péché, mais ils vont répondre, c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans leur défense, qu'ils ne bénissent pas le péché, mais ils bénissent les pécheurs, justement, qui ont besoin d'avancer et de progresser. Donc le texte est très mitigé parce qu'on peut y lire ce que l'on veut, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Et les évêques, y compris les évêques de langue française de Belgique, ont réagi ces derniers jours. Apparemment, il y aurait eu une certaine réaction romaine. Alors je ne sais pas d'où elle venait.
Non verbale.
Voilà. Non, peut-être verbale, mais non écrite en tout cas.
Et donc les
évêques étaient absolument furieux. J'ai vu la réaction de l'évêque d'Anvers, notamment. Il était absolument furieux en disant « Mais enfin, Rome est tout à fait en retard et il faut que nous répondions vraiment à ce problème parce que en Belgique, les gens quittent l'Église à cause de ça. » Alors je ne pense pas que ce soit quand même la première raison du vide dans les églises belges.
Probablement pas. En tant qu'observatrice sur les questions religieuses, enfin des questions religieuses, Anne Le Pape, comment vous avez réagi devant une telle nouvelle ?
Alors, le père Thomas a parlé de Willy Bombeck.
Oui.
Et moi, ce qui m'a fait un petit peu réagir aussi, c'est qu'il a été pendant des années, ce monsieur, porte-parole de l'enseignement catholique en Flandre. Voilà, il est ouvertement croyant et homosexuel.
Donc, et avec donc il a exercé une charge officielle.
Il a exercé une charge officielle au sein de l'enseignement catholique. En tant que parent, on se dit que c'est un peu surprenant, pour employer un mot qui est un euphémisme.
Vous savez, à partir du moment où on parle de forfaiture, on peut employer tout le vocabulaire ici. Vous êtes libre.
Je vous couvre.
Sans langue de buis.
Et puis, bon, ben, oui, en tant que catholique de base, voilà, on se dit ce qu'on dit, messieurs les abbés et le père Thomas, c'est que ça, c'est au moins un manque de logique, mais c'est la manière d'avancer des progressistes, un petit peu en crabe. Donc, il y a... On fait des choses interdites, ça n'est pas la première fois. On a les bénédictions en masse des couples homosexuels en Allemagne en mai 2021, en mai 2022. C'est interdit, on le fait quand même. Il y a également la théorie, puisque le cardinal Ulrich, rapporteur général du synode, en février 2022, a déclaré à une agence allemande que l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité était erroné, et que son fondement sociologique scientifique n'était plus correct.
Donc c'est une réponse à ce que vous avez dit au début, ça, finalement.
Oui, effectivement, on essaye d'apporter des justificatifs. Mais je voudrais signaler, par rapport à la morale sexuelle, puisque c'est grosso modo c'est ça dont on parle hein, de façon générique, appliquée spécialement à l'homosexualité, que la révélation chrétienne est une révélation qui revient en arrière et qui va vers quelque chose de plus rigide, puisque notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans une situation où on peut divorcer. Et il va abolir cette possibilité de divorce.
Vous étiez en train de nous dire qu'il est rétrograde.
Non, mais dans lequel on dit oui, mais on veut aligner l'évangile sur les mœurs, c'est ça la base. Mais notre Seigneur a fait le mouvement inverse. Il pouvait très bien laisser l'état des choses, etc. Mais non, il a restauré le mariage dans sa pureté originelle. Et là, on essaye d'aller nettement contre l'évangile, parce que. Je dirais, il y a peu de choses qui soient aussi clairement condamnées dans l'ensemble de la Sainte Écriture, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, que la pratique de l'homosexualité. Je veux dire, c'est hyper clair. Et dire qu'on peut trouver des façons de le justifier au regard de la Sainte Écriture me paraît complètement ridicule.
Mais comme ce dominicain qui expliquait que saint Thomas était pour l'homosexualité, si je me souviens.
Oui, il y a quelques années. C'est... Effectivement. Père Thomas, vous vouliez intervenir, je crois.
Oui, le titre exact du document, c'est « Être proche pastoralement des personnes homosexuelles pour une église hospitalière qui n'exclut personne ». Donc on voit bien que ça s'inscrit dans un cadre qui est plus vaste. Le cadre plus vaste, c'est tout le courant actuel, à savoir qu'il faut lutter contre tout type d'exclusion. Donc toutes les personnes qui sont considérées comme en marge, mais que l'Église a toujours aidé et suivi pastoralement, doivent être maintenant considérés comme la norme.
Sauf s'ils sont traditionnalistes.
Oui, ça va sans dire.
Ouais, d'accord, mais ça va mieux en le disant quand même. J'ai quand même une question à propos de... On parle de bénédiction, et parmi les argumentaires utilisés par ceux qui défendent cette prière de bénédiction... proposé par ces évêques, c'est de dire on bénit bien aujourd'hui les voitures, les motos, les animaux.
Mais pourquoi pas les homosexuels
Les maisons.
Mais c'est des choses neutres.
Pourquoi pas les couples, oui. Parce que non, c'est pas bénir les homosexuels tant qu'on veut, mais il s'agit là d'une bénédiction d'un couple.
Oui, c'est le couple et pas la personne en tant que telle.
Bénir une personne qui a des tendances homosexuelles me pose aucun problème. Pour l'aider spirituellement, de lui donner une bénédiction qui l'aidera dans son combat contre les tentations qu'il peut ressentir ou les situations difficiles dans lesquelles il peut se trouver moralement, il n'y a aucun problème.
On bénit bien des hommes politiques.
C'est dire. Mais là, il s'agit bel et bien, effectivement, de bénir une union homosexuelle en tant que telle, puisque on l'examine même. Est-elle stable, est-elle fidèle? C'est donc pas les personnes que nous accueillons, je dirais, voilà, pour les aider et être à leur côté et qu'ils puissent recourir fréquemment au sacrement parce qu'ils ont des tentations fréquentes, etc., etc. C'est effectivement une situation objective de péché que l'on bénit. Et ça, c'est impossible.
Le rapprochement que ça opère avec un mariage...
C'est une imitation du mariage.
C'est une imitation, et c'est ça qui pose problème, en somme.
Non, mais d'abord, la notion même de bénédiction ne peut s'appliquer qu'à des choses en soi bonnes. Ah. Pour les rendre meilleures, pour les consacrer à Dieu, etc.
Donc on considère, pardon, je vous interromps, mais on considère si on bénit une voiture... Un lapin, voilà.
Une maison. C'est un objet naturel, nécessaire à la vie de l'homme, bonne pour la vie de l'homme, et qui, voilà, en soi, sauf si on considérait que la voiture, désormais, était pécamineuse, mais voilà, elle, en soi, on va y arriver, mais on ne va pas bénir, si vous voulez, le mafieux qui va faire une prière de la Sainte Vierge avant d'assassiner quelqu'un, c'est un sacrilège, c'est pas une vraie prière.
C'est pas une vraie prière, oui, c'est... très bien.
C'est tout à fait juste, bien sûr, c'est théologique, mais le fond de l'affaire est politique. Il est évident qu'il y a une pression de LGBT sur toutes ces affaires-là qui pousse l'Église dans ses retranchements et qui veut la pousse à aussi rentrer dans ce système. C'est vieux comme le monde, bien sûr. Enfin, vieux comme le libéralisme catholique qui lâche sur ces points-là. Mais c'est pas nouveau. On a vu, par exemple, longtemps, il y a toute l'histoire de cette affaire-là, avant même où m'en éviter, mais ensuite où m'en éviter, cette pression qu'on exerçait, sur les confesseurs, du temps où il y avait des gens qui confessaient, des gens qui se confessaient, sur le fait d'absoudre des gens qui fraudaient dans le mariage, puisque c'est de ce qu'il s'agissait. Ensuite, ça a été la pression sur les divorcés remariés. On parle maintenant du rituel, parce que c'est un rituel en somme, hein, inventé par les évêques belges, mais il y a eu un rituel, figurez-vous, il y en a eu plusieurs peut-être, mais enfin un, en tout cas que je connais bien, pour le mariage, le remariage des divorcés remariés.
Le remariage des divorcés remariés.
Enfin, le mariage des divorcés remariés. Donc, deuxième mariage.
Qui se... Oui, d'accord. Pas le troisième mariage.
Mariage toujours.
La bénédiction des divorcés remariés en tant que tel.
Voilà, c'est bon, pourtant pas un extrémiste. Monseigneur, qui était évêque d'Autun.
Monseigneur Le Bourgeois. Ancien aumônier scout de mon père. Voilà.
Non, mais on va peut-être sortir des petites.
pas méchant homme, royaliste par ailleurs.
Voilà.
Un livre en 90 où il expliquait que dans certains cas, les divorcés remariés, après tout, il fallait vraiment comprendre, déjà, surtout s'ils étaient fidèles, s'ils s'occupaient des enfants. Et à la fin, ils donnaient des indications pour bénir leur mariage, entre guillemets, avec lecture, etc.
Donc, vous êtes en train de dire, monsieur l'abbé, qu'il n'y a rien de nouveau, en fait.
Rien de nouveau, mais c'est toujours plus fort.
Voilà.
C'est une pression sur l'institution de plus en plus forte. Alors, moi, j'en reviens quand même au fait, à l'absence de réaction, parce que là, c'est aussi encore plus fort, le fait qu'il n'y ait pas de réaction, alors que, là, il ne s'agit pas de parler contre le concile. Jusqu'à l'Église conciliaire dans son état actuel, celle du pape François, a condamné par un texte ces bénédictions. Il est donc très facile, je veux dire, du point de vue psychologique, pour ceux qui veulent résister, pour les évêques qui voudraient résister, les cardinaux qui voudraient résister, de le faire. Voilà ce que je dis.
Ils ne le font pas,
et c'est le plus fort dans cette affaire-là.
Alors, dans La Croix, il y a eu un entretien qui a été publié avec un catholique qui se présente comme homosexuel, pardon, et qui, évidemment, défend un catholique belge qui défend cette prière de bénédiction, et qui dit...
Vous dites évidemment, pas nécessairement.
Oui, effectivement, vous avez raison de me corriger. Mais qui dit que en fait, ces évêques belges s'appuient sur Amoris Laetitia. Oui. Est-ce que c'est une façon de faire passer, j'allais dire la pilule, c'est peut-être pas le terme le plus adéquat,
Il y a un peu de ça, c'est un peu vrai. Parce que Amoris Laetitia entr'ouvrait une porte en douce, pour dire, bien sûr, voilà la doctrine, mais bon, la pastorale veut que... Alors eux, ils ouvrent à fond la porte, mais il y a quelque chose de vrai, Alors que Humanivité, par exemple, Paul VI, en 68, lui, il dit, non, c'est un acte impossible et on ne peut jamais le justifier. Évidemment, les évêques français ont dit on peut le justifier après, bien sûr, mais le texte lui-même est clair.
En tout cas, le sens du texte, parce qu'il y avait quand même des petites bricoles sur la conscience, sur la
qualité. On va pas rentrer dans Humanivité, mais Père Thomas.
Oui, les rédacteurs et les défenseurs du texte, en effet, ont dit clairement qu'ils s'étaient inspirés d'Amoris Laetitia et du numéro 250 en particulier. Et leur argument, c'est qu'il faut mettre en place une pastorale, c'est le terme, hein, une pastorale de l'amitié et de l'apaisement. Voilà. Donc dans cette mouvance. Mais ça ne veut rien dire.
Ah, d'accord.
Mais quoi qu'il en soit, ce sont les termes qui sont employés. Donc il est difficile d'utiliser à la fois des arguments théologiques et même des arguments rationnels, puisqu'on est uniquement dans un cadre qui est émotionnel. Et en effet, oui, il y a beaucoup de souffrance parmi les homosexuels, et comme il y a beaucoup de souffrance dans toute la race humaine.
Mais enfin, donc, personne ne se marie aujourd'hui. Et eux veulent absolument se marier et avoir un mariage béni.
Alors, pas tous, quand même.
Non, pas tous. J'exagère.
Ça demeure une minorité.
J'exagère. C'est pour d'exagérer.
Mais c'est une revendication. C'est pas votre genre. C'est une revendication.
C'est une revendication sur ce point.
Anne Le Pape, Amoris Laetitia.
Alors, Amoris et Laetitia, oui, ça me paraît, mais comme dit l'abbé Cellier, quand on entr'ouvre une porte, on a beau dire que la porte ne s'ouvrira pas plus, l'adversaire met le pied dans l'ouverture enfonce un coin, si j'ose dire, on se fragilise. Hein. Mais l'abbé Barthes, donc, a dit qu'il y avait des pressions depuis longtemps, etc., mais Moi, j'ai pensé tout de suite, quand j'ai vu que c'était l'archevêque de Bruxelles, Malines, qui faisait ce genre de rituel, notamment, Monseigneur Léonard, qui lui-même a été en butte à des pressions très fortes, des, ce qu'on appelle les LGBT maintenant, et qui a beaucoup, qui a tenu sur ce point-là, mais qui a eu du mal. Hein. Et alors, je voudrais poser une question aux hommes de l'art, puisque il est de notoriété publique qu'il n'y a plus de catéchisme, il n'y a plus de formation. Jean Madiran le dit depuis 50 ans, rendez-nous le catéchisme et l'écriture et la messe. Donc, les gens ne savent pas que c'est un péché. Les gens qui pratiquent l'homosexualité, savent-ils que c'est un péché? Ils ne vont pas lire forcément le catéchisme de l'Église catholique.
Oui, mais ici, on parle...
Ils suivent le guide.
Oui, mais on parle...
C'est une question intéressante, effectivement.
Ils suivent les pasteurs, qui leur disent que ça n'est pas un péché et qui le prouvent en bénissant leur couple. Est-ce que ces gens-là sont pécheurs? Il faut savoir que c'est un péché pour qu'on pêche.
Très bonne
et sur
question.
Qui retombe la responsabilité?
Très bonne question, messieurs.
Alors, le gros de la responsabilité tombe sur les pasteurs, bien sûr. C'est colossal. Hein. Je répète, une forfaiture. Mais, en effet, la responsabilité, c'est dans le secret de Dieu, hein,
oui.
du pécheur, en l'espèce, peut être atténuée. Il n'empêche que c'est tout de même un péché contre nature. Ils savent bien que ce n'est pas en se mariant avec des hommes qu'on a des enfants, donc c'est assez clair, un péché vraiment directement que la Bible condamne comme tel, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a, objectivement, après dans le secret de Dieu on ne sait pas, mais objectivement il y a une responsabilité de ces pécheurs.
Est-ce qu'ils ne peuvent pas, pardon, je poursuis la question d'Anne Lepape, est-ce qu'ils ne peuvent pas être dans une invincible ignorance parce que vous dites ils savent qu'en se mariant, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais aujourd'hui, la théologie du mariage, enfin ce qui est enseigné sur le mariage, est assez découplée de la
procréation.
De la procréation.
Nous sommes d'accord. Oui.
Et donc, ce qui d'ailleurs pose le problème finalement. Mais est-ce qu'effectivement, ils ne peuvent une approche d'une invincible ignorance?
C'est, à mon avis, le secret de Dieu. Mais je ne pense pas qu'on puisse le dire
objectivement. C'est le secret de Dieu.
On ne peut pas le dire objectivement.
Saint Thomas dit que dans des cas de dégradation, si vous voulez, de la civilisation et de la race humaine, avec de l'ignorance, un état de péché généralisé, etc., on peut ignorer certaines conséquences de la loi naturelle, et il donne l'exemple de la fornication, donc les relations conjugales hors mariage. Il dit là, on peut être dans l'ignorance, mais visiblement, il ne le pense pas pour l'adultère, parce que là, il y a une question de justice. Donc, le penserait-il pour l'homosexualité, qui, comme dit, est un acte contre nature, qui, de plus, est ressenti, c'est d'ailleurs une des sources de souffrance des homosexuels militants qui essayent de voir que ce ne soit pas le cas, c'est qu'un quelqu'un qui se découvre avec des tendances homosexuelles est très mal à l'aise au moment de la puberté, parce qu'il sent qu'il a des tendances vers des choses qui ne sont pas normales. Alors après, encore une fois, je ne peux pas juger l'état de conscience des personnes, mais je pense qu'il peut y avoir un obscurcissement, qu'il peut y avoir, un affaiblissement très fort, surtout dans notre société où non seulement c'est permis, non seulement, mais c'est prôné comme étant...
Oui, c'est encouragé.
C'est encouragé comme étant quelque chose de bon, etc. Et la lutte contre les tendances homosexuelles, enfin la pratique homosexuelle est maintenant condamnée par des lois, même en France, les thérapies dites de conversion, etc., dans lesquelles je ne suis pas tellement d'accord, mais je veux dire... Et donc, il peut y avoir, je pense, un obscurcissement, un très grand affaiblissement. Est-ce qu'on peut arriver à un moment où on ne perçoit même plus que c'est un péché, je dirais avec une conscience droite, parce qu'on peut être tellement enfoncé dans le péché que finalement on oublie que c'est un péché. Mais est-ce que ça puisse devenir objectivement un péché non imputable? J'ai quelques doutes, mais ça peut être un péché qui finalement est faiblement imputable parce que c'est tellement dans l'air du temps que les personnes, voilà.
Père Thomas, votre avis sur cette question un peu difficile?
Alors je ne pense pas que l'ignorance et le manque de conscience du péché soit plus grande chez les homosexuels que chez les autres. C'est exactement la même chose. C'est Ce dont on parle là, c'est un épiphénomène d'un phénomène plus grand. C'est le sens du péché qui a été partout et pratiquement mais donc, chez tout le monde.
Oui. Mais je peux étendre ma question de ce fait. Oui. Parce que, effectivement, est-ce que dans les péchés qui sont commis aujourd'hui, hors ceux-ci,
oui.
La majorité ou une grande partie, ou au moins un certain nombre, ne sont pas aussi dans une invincible ignorance ?
Oui, moi je suis plutôt d'accord avec vous. Oui. Je trouve
qu'il y a... je pose une question.
Hein, oui, je trouve qu'il y a actuellement un aveuglement qui est en grande partie. Qui ne dépend pas de la responsabilité directe des personnes. Bien évidemment, il y a toujours un fond de responsabilité. Parce qu'on a quand même des éléments pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, si on le désire. Parfois, on s'aveugle, évidemment, volontairement. Mais il n'empêche que c'est toute la société qui, pas simplement dans ce domaine de l'homosexualité, mais dans tous les autres domaines, qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Et c'est à chacun... de se faire une idée de ce qui est bien et de ce qui est mal, à partir du moment où on ne met pas directement en danger la vie des autres.
Oui,
c'est actuellement la position...
entre adultes consentants.
Entre adultes consentants.
Je rebondis quand même sur ce que disait l'abbé Barthes, finalement, que dans la mesure où nos guides naturels au sein de l'Église...
ça c'est très grave.
Défaillent.
Eux ont une responsabilité colossale.
Ne réagissent pas, ne nous informent pas, ne nous enseignent pas et ne nous condamnent pas quand nous faisons des erreurs aussi graves, voire encouragent ce genre de choses. Parce que il me semble-t-il, un jésuite qui est spécialiste à travers le monde... de la propagande en faveur de tout ce qui touche les homosexuels et les...
Alors, pas de la propagande, vous direz le souverain pontife, puisque c'est le pape qui lui a donné ce rôle.
C'est encore pire. Là, vous m'apportez une précision qui est encore pire.
Ne lui a pas dit de faire la propagande. Le pape lui a dit de développer une pastorale envers les personnes ayant des tendances homosexuelles. C'est ça, sa responsabilité. Ensuite, la façon
dont il la met en œuvre,
c'est autre chose.
On est bien d'accord.
On ne va pas en parler ici en détail, mais il n'est pas le seul. Mais lui, c'est évidemment la figure la plus connue, c'est le père James Martin aux États-Unis. Mais bon, il s'inscrit dans tout un mouvement, il n'est pas le premier. C'est un mouvement qui a été préparé déjà par des décennies de relativisation, justement, du sens du péché.
On est bien d'accord. Mais l'exemple vient de haut, quand même. Oui, monsieur l'abbé.
Je crois quand même que le fait de vouloir une bénédiction, de même que les divorcés remariés font pression pour être bénis, et là, les homosexuels, il y a quand même un petit quelque chose qui les gêne. Et ils cherchent, ils font une espèce de chantage pour avoir cette bénédiction de l'Église entre guillemets, parce que c'est pas elle. Mais regardez dans l'affaire de Nîmes, là, qui est apparue ces temps derniers, d'après les aveux du prêtre...
Alors, quelle affaire de Nîmes ? L'affaire de Nîmes, précis, s'il
vous plaît. Des photos ont circulé, sans doute prises sur Facebook, publié d'abord par Péliturgique, reprise avec une enquête par Riposte catholique, deux photos qui montrent dans la campagne nîmoise, puisque ça se passe dans le diocèse de Nîmes, c'est sûr, une bénédiction justement d'un couple de jeunes homosexuels par un prêtre qui a prétendu ensuite que ce n'était pas une bénédiction, mais enfin il est quand même un aube avec une étole et une croix de procession à côté de lui. Il a fini par dire, et c'est ce qui s'est expliqué, en disant que il avait en outre une chorale, figurez-vous, une chorale diocésaine. Et même le bruit court que ce seraient deux membres de la chorale diocésaine qui se seraient mariés de la sorte.
Unis, du moins.
Unis, on va dire, oui. Mariés entre guillemets, bien sûr, chaque fois qu'on parle de mariage. Enfin, là, manifestement, ils ne sont pas très tranquilles. Ils veulent qu'il y ait cette bénédiction et le prêtre s'y prêter. Mm. Voilà. Donc, je pense quand même qu'il y a une... En toute hypothèse...
L'intranquillité des gens fait qu'ils ont une certaine conscience.
Les moralistes classiques, sur lesquels on se retourne toujours, ne parlaient pas de ça, mais c'était tellement énorme. Mais je crois qu'ils se posaient la question, quelques-uns, sur l'anthropophagie. Est-ce que dans une société où on se mange entre soi, y a-t-il un péché finalement la conscience peut-elle être assez...
Oui, c'est à peu près le même genre.
C'est à peu près le même genre. Il me semble qu'aucun ne va jusqu'à dire non, c'est... Objectivement, c'est... Peut-être que...
Donc l'anthropophage peut avoir une...
ne pourrait pas avoir une conscience, non, justement.
Complètement éteinte. Très amoindrie, mais pas complètement éteinte.
Il peut avoir conscience malgré tout.
En tout cas, objectivement, on ne va pas dire, le moraliste n'arrive pas à dire, non, il pourrait y avoir une
alors qu'encore une fois, saint Thomas le pense, par exemple, pour la fornication dans un état très dégradé, puisque c'est un acte naturel, la fornication, si vous voulez, ça va vers la nature, etc.
Oui, c'est ça. Alors ça se conjugue avec l'éventuelle légitimité de la polygamie dans les sociétés anciennes.
Et on y retourne
rapidement,
à grands pas. J'ai une question, parce que je suis un peu étonné. J'ai affaire à des éminents spécialistes de liturgie. Et l'aspect liturgique de cette prière de bénédiction n'est pas tout à fait ressorti, parce que...
Pas encore.
Oui. Mon père, c'est très bien.
Nous sommes penchés sur la question.
Je m'en réjouis d'avance. Donc je vais finir ma question. Cette prière de bénédiction, en fait, est donnée par l'Assemblée, et on ne spécifie pas, sauf erreur de ma part, mais vous me corrigerez, le rôle du prêtre ou du diacre éventuellement dans cette prière de bénédiction.
Monseigneur Le Bourgeois, dans le...
Non, mais le rite. Bourgeois, c'était autre chose.
D'accord, mais c'est toute chose égale par ailleurs. Il disait que le prêtre animait cette
cérémonie. Pas ici. Pas dans ce cas.
Alors.
Dans ce cas, en fait, la structure, en effet, est une structure de bénédiction nuptiale, ça ne fait aucun doute. Sans que la bénédiction nuptiale soit prononcée vraiment, c'est une prière, en effet, de bénédiction qui peut être prononcée soit par une personne, soit par plusieurs personnes, soit par tout le monde, par tous les assistants. Mais en effet, la structure est bien une structure de type mariage. Mais les évêques s'en défendent. Et ils disent que c'est d'abord, en fait, aussi une intégration, une reconnaissance par l'Assemblée.
Un accueil.
Un accueil d'un amour qui est vécu. Voilà.
Oui, mais Willy Bombeck, pour revenir à lui, dit que c'est exactement l'équivalent
du mariage.
Oui, mais
lui dit ça, mais pas les évêques. Voilà. Et lui n'est pas un évêque. Donc les évêques se retranchent également, bien évidemment, derrière.
Oui, la réalité
derrière
des faits, c'est
d'autres,
quoi la réalité des faits, vous dites, c'est quand même une
Oui, je ne sais pas si vous avez lu la prière.
Bien sûr, j'ai
la
lu
la prière
à genoux,
finale.
Même.
Vous l'avez lu à genoux. Oui. Alors, donc, voilà, Dieu d'amour et de fidélité, aujourd'hui nous nous tenons devant toi, entourés de nos familles et de nos amis. Donne-nous la force d'être fidèles l'un à l'autre et d'approfondir notre engagement. Nous croyons que tu es proche de nous et nous voulons vivre de ta parole donnée l'un à l'autre pour toujours. Donc, une parole donnée l'un à l'autre, dans le mariage, dans l'Église latine en tout cas, ce sont les conjoints qui se donnent le sacrement. Et ils se donnent le sacrement par la parole. Donc là, alors dans les liturgies byzantines, c'est autre chose.
Oui, bien sûr.
Mais dans la liturgie latine, on voit que c'est quand même comme une décalcomanie d'un mariage...
Avec l'officialisation
par l'Église, par l'Assemblée.
Par l'Assemblée, mais pas forcément...
Mais pas forcément par un prêtre. Voilà.
Mais le prêtre peut être absent, le diacre peut... Oui. Mais ça ne change pas la réalité des choses.
Non, mais c'est nécessairement un délégué officiel de l'Église.
En quelque sorte, ce serait un... S'il n'y avait pas de prêtre, un mariage extraordinaire.
Mariage homosexuel, en rite extraordinaire, on aura maintenant ça.
Parce qu'on n'a pas le possible.
Je pense que vous êtes en train de perdre tout le monde, là.
Voilà. Oui, mais c'est-à-dire que le droit canonique prévoit que lorsqu'on ne peut pas avoir un prêtre pour être témoin officiel, un curé même, ou un délégué du curé pour être témoin officiel du mariage, on est sur une île déserte, on est de la Fraternité Saint-Pédis, on est de traditionnalistes, d'autres fraternités.
C'est-à-dire que on a de la Fraternité Saint-Pédis sur une île déserte.
Oui. On va pouvoir se marier entre époux et demander éventuellement si un prêtre est là, il va bénir. Mais même sans ce prêtre, on serait marié et on demanderait ensuite à faire inscrire le mariage dans un registre. C'est pour ça qu'on plaisante à demi en disant qu'il y a une analogie lorsque le prêtre n'est pas là. Mais peu importe, c'est quand même un acte d'église qui est prévu par les évêques, là, pour le coup.
Ça.
Et alors, le fait que ce soit l'Assemblée qui intervienne, vous savez, c'est là aussi un autre mouvement qui, celui-là, est intra-catholique, c'est rien de politique, qui est celui de l'évacuation du sacerdoce. Du fait que dans les assemblées liturgiques, les fidèles vont aussi consacrer. C'est l'affaire de Coire, c'est bien connu maintenant.
Rappelez-la quand même.
Alors, Monica Coire,
en
Suisse, une certaine Monica, qui était, je ne sais pas quoi, une ministresse de la paroisse.
Responsable de la paroisse.
Responsable de la paroisse, a participé à une grande célébration, a consacré.
En habit liturgique.
Mais tout récemment, à Lourdes, ce pèlerinage des cancéreux, ça s'appelle
Lourdes Cancer Espérance.
Espérance, c'est ça. Lors de l'assemblée d'entrée, le Père Vieux pourrait nous en parler, dans la basilique Saint-Pédis, on a fait mettre les prêtres, sauf deux ou trois qui étaient autour de l'évêque, on les a fait mettre dans l'assemblée avec les malades, assis, tout le monde est assis, hein, prêtres. Hein, et les paroles de consécration ont été prononcées par les prêtres et par un certain nombre de fidèles aussi, qui entraînés par
le mouvement.
Oui. Donc, voilà, une espèce de consécration de foule. Quoi,
Desiderio, Desideravi dit explicitement que c'est l'assemblée qui célèbre. Donc là,
on est
en plein dedans. C'est cette théologie où on passe du prêtre ministre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'assemblée célébrante. Et là, c'est l'assemblée qui célèbre, l'assemblée d'Église qui accueille, effectivement, qui bénit, comme vous dites, qui bénit un amour. Et il y a une déclaration d'intention et de réciproque qui est une imitation du véritable mariage.
Le fait de l'assemblée, c'est magnifique parce que c'est, si on peut dire, du point de vue bouninien, on est au sommet de la participation. Hein. Du point de vue conciliaire, c'est très beau.
C'est l'acmé de la réforme liturgique, c'est ce que vous voulez dire ?
Voilà, je trouve que c'est très beau conciliairement.
C'est très beau conciliairement. Très bien, c'est sur ces paroles encourageantes, si je puis dire, que s'achève cette émission, ce quatrième épisode du Club des Hommes en Noir de la saison 5 en vidéo, n'oubliez pas ça. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau thème, une nouvelle émission. Mon père, messieurs les abbés, chère madame, merci infiniment de votre présence et de votre lumière. À la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu vous garde.